Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 30 de Tech Café Domotique dédié au CES 2024. Je suis Julien, votre animateur préféré, accompagné de ses collaborateurs préférés, Gaëtan. Bonjour Gaëtan.
Salut Julien, comment ça va? Ah, t'es mon préféré.
Ça va bien et toi?
Ouais, ça va très bien, merci. Ravi de te retrouver.
Et notre troisième comparse, comme d'habitude, Antoine. Salut Antoine.
Salut. Salut messieurs.
Antoine, toi aussi, t'es mon préféré.
On est tous les trois les préférés.
Exactement.
J'ai bien dit.
Hein. Ouais, c'est bien, c'est parfait.
Donc, on a décidé de vous faire un petit résumé rapide. Normalement, ce sera un épisode pas trop long, comme à notre habitude.
2h30.
Non, on va faire beaucoup plus rapide. Pour vous parler un petit peu des nouveautés domotiques Smart Home de ce CES 2024. Alors, vous avez peut-être déjà vu un petit peu dans tous les articles que vous avez pu lire sur les sites spécialisés. Mais on voulait quand même vous en parler et avoir mon avis, puisque moi, j'ai eu la chance de pouvoir y être sur place. Mais avant de parler du CES, on va parler de l'actualité domotique. Alors, il n'y en a qu'une.
C'est la une.
Elle est assez récente, elle date de quelques jours. C'est l'arrivée de Home Assistant dans CarPlay. Alors, on ne va pas vous expliquer ce que c'est CarPlay, etc. Donc, c'est un petit peu une nouveauté, moi, je trouve, qui est pas mal, hein, puisqu'on va récupérer pas mal de raccourcis qu'on aura déjà programmés au sein de son application Compagnon. On va récupérer aussi les scènes, mais aussi l'accès aux pièces de sa maison qu'on aura définies pour piloter les différents appareils des pièces. Alors petite remarque Gaëtan, ouais. Hein, je crois que tu avais un petit grief,
c'est-à-dire que Home Assistant donc, est arrivé sur CarPlay, donc j'ai dit parfait, j'ai fait la mise à jour de Home Assistant sur mon iPhone. Je vais dans ma voiture, je vois mon assistant qui apparaît donc sur CarPlay. Je dis fantastique. Premier truc, c'est dit ok, je vais dedans et je vais augmenter ou baisser mon chauffage. Et là, point de chauffage. En fait, dedans, vous n'avez pas retrouvé les cartes que vous avez chez vous. Vous n'avez pas retrouvé tout l'ensemble. Donc, il va falloir effectivement préprogrammer peut-être certaines scènes ou certaines choses spécifiques à CarPlay ou devoir personnaliser certaines actions que vous voulez faire dans votre voiture que vous ne feriez pas chez vous et inversement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas en fait Home Assistant tel que vous le voyez sur votre tablette ou votre ordinateur ou votre smartphone qui apparaîtra sur votre voiture. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui est logique par rapport à la philosophie de CarPlay. CarPlay, aujourd'hui, c'est quelque chose de très, on va dire, résumé pour...
Minimaliste.
Minimaliste, merci, par rapport à la sécurité routière. Donc, il n'y a pas question que vous ayez 36 000 trucs, que vous ayez accès à vos caméras, à vos vidéos et quoi que ce soit. Donc, ça peut se comprendre. Je pense qu'entre la première version qui vient de sortir et puis les prochaines évolutions, il y a un peu de marge de progression. Mais l'idée n'est pas bête du tout que dans votre voiture, vous puissiez m'emmener dire « Ok, j'arrive chez moi, dans une demi-heure, vas-y, tu m'allumes, je fais un scénario, je suis en train de rentrer, donc le chauffage, tu ouvres le portail, tu fais chauffer l'eau du café, j'en sais rien, n'importe quoi, bref. Donc, il y a de quoi faire. Il y a des bonnes idées et ça évite de manipuler le téléphone dans la voiture ou de passer via Siri qui, de temps en temps, fait un peu ce qu'il veut comme il peut.
Ouais, alors comme c'est trié par actionneur, tu as tout, et ça c'est toi qui le disais, ouais. Hein, tu as tous les boutons
tous les actionneurs.
Que tu as définis, tu sélectionnes pas comme tu peux le faire sur Homebridge, etc.
C'est-à-dire que moi les actionneurs apparaissent tous, donc quand je dis un actionneur, par exemple quand vous avez une prise connectée, dedans il y a un actionneur. Quand vous avez, qu'est-ce que j'ai vu passer, des trucs qui n'ont rien à faire en tant qu'actionneur, vous n'utiliserez jamais en tant qu'actionneur, mais... Comme il est considéré comme un actionneur, donc tout apparaît, toutes les actionneurs, les actionneurs apparaissent et ils sont par ordre, je crois que c'est alphabétique. Donc si vous voulez rechercher juste votre prise ou votre ampoule, c'est imbitable. Enfin, si vous avez beaucoup d'objets connectés pour l'instant. Donc l'idée par rapport à ça, c'est peut-être de refaire certaines scènes spécifiques. Vous faites des scénarios voiture, je rentre chez moi, voiture, je pars de chez moi, voiture, allume la lumière, voiture, etc. Comme ça, vous pouvez les repérer par rapport à ce nom-là. Mais je pense. Dans ma première approche, c'est de me dire, tiens, super, il y a Home Assistant sur CarPlay. Finalement, c'est très décevant. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, finalement, il y a une marge de progression. C'est un truc à affiner et ce qu'on peut faire entre la contrainte de CarPlay par rapport à ce que Home Assistant peut apporter.
Il y a une autre chose, et je ne suis pas un expert CarPlay. Il me semble que quand tu utilises CarPlay, tu vas récupérer le GPS de ta voiture, qui sera beaucoup plus précis. et potentiellement mis à jour en temps réel. Alors que sur ton iPhone, bah, ce n'est pas forcément en temps réel. Donc, potentiellement, ton positionnement GPS sera plus précis en remontant avec dans l'application Home Assistant. Il me semble que ça serait une potentielle amélioration justement pour te positionner quand tu arrives chez toi, etc.
Est-ce que... Il me semble. CarPlay non, pour moi, CarPlay ne prend pas le GPS de ta voiture.
Il pour prend moi, le GPS de ton
téléphone.
Hein.
Ouais. Si ton téléphone est rangé dans un tiroir, dans la voiture, pardon, pas un tiroir, mais dans un vide-poche, un truc comme ça, moi, ça m'arrivait de devoir le sortir parce que justement, je ne captais plus suffisamment bien la position GPS. Ouais.
Bon, à vérifier, mais peut-être une connerie, il me semblait qu'il y avait un truc où on récupérait quand même quelque chose de la voiture, ou alors c'est peut-être l'antenne cellulaire, ou bon, bref. Jean-Michel à peu près, désolé, il me semblait.
Non, mais confirmé, mais pour moi, je dirais que non, mais confirmé également.
Et par contre, c'est pas mal. Je tape dans le micro, ça risque de faire du bruit. Je dis, c'est pas mal cette intégration de Home Assistant dans CarPlay, mais encore faut-il que ta voiture ne soit pas en panne, Gaëtan.
Prends ce tac là.
Ouais, mes voitures de prêt étaient également en CarPlay. Je peux tester d'autres systèmes CarPlay. Pour le bien.
Alors, sur l'actualité pure domotique, on s'est arrêté là, puisqu'on en parle un peu plus avec justement le dossier. On a quand même nos actualités personnelles domotiques pour vous donner un petit peu l'état des lieux de ce qu'on a fait depuis la dernière émission. Moi, depuis, j'ai décidé d'abandonner Node-RED progressivement, puisque je me suis aperçu que Node-RED dans Home Assistant, qui permettait de faire pas mal d'automatisation complexe, c'est beaucoup plus simple maintenant dans Home Assistant. Ils ont vraiment amélioré ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, les détections de mouvement qui allument la lumière, c'est plus rapide dans un scénario automation de Home Assistant qu'en passant dans Node-RED. Donc, je pense que je garderai les trucs vraiment très complexes dans Node-RED et les trucs beaucoup plus simples comme de la lumière et tout dans Home Assistant. Voilà, ça, c'était mon constat.
Parce que tu étais très content de Node-RED. Je me souviens quand tu l'avais installé et que tu avais commencé à faire muse avec, tu étais plus que enthousiaste par rapport au truc, et par rapport à la solution et par rapport à ce que ça apportait. Mais effectivement, c'est
parce que c'était simple graphiquement, c'était graphique et que la partie automation de Home Assistant, il y a 2 ans, c'était pas aussi évolué, quoi.
Et c'est vrai que Home Assistant, enfin bon, après, on ne va pas faire non plus un épisode spécial Home Assistant, mais il y a des mises à jour qui sont faites tous les 15 jours, toutes les semaines, 15 jours, même moins que ça. Je fais beaucoup de mises à jour.
Enfin, les mineurs, mais vraiment les fonctionnalités, c'est tous les mois.
Enfin, il y a vraiment des choses qui bougent en permanence, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas la marge.
Bah, c'est surtout qu'on a l'impression qu'il y a une grosse hype. Il y avait déjà, mais aujourd'hui, clairement, on voit tout le monde basculer sous Home Assistant. Ça devient. J'ai vu que ça en devenait même presque une private joke, un peu dans la communauté JDOM et compagnie, où j'ai regardé 2-3 trucs l'autre jour là-dessus et c'est ce que je voyais, quoi. Tout le monde est en train de dire JDOM, tout le monde migre chez Home Assistant, quoi.
T'es toujours sur JDOM, toi ?
Non.
Ah.
J'en ai toujours un qui tourne. J'ai toujours un JDOM qui tourne sur un Raspberry qui est toujours branché. Mais comme on va y venir dans mon actualité domotique du moment, justement, je me suis plongé dans Home Assistant. Je me suis plongé à fond dans la hype Home Assistant. Je suis faible. J'ai été influencé par tous ces influenceurs domotiques. Et j'ai réinstallé un Home Assistant. Je l'avais installé il y a déjà un petit bout de temps, suite aux super épisodes qu'on avait fait là-dessus et qui avaient donné envie à tout le monde. Donc je l'avais installé et j'ai tout été crashé depuis le temps, évidemment. Donc j'ai réinstallé ça proprement et je me suis remis dedans sérieusement et c'est vrai que c'est cool. C'est assez cool. Alors je maîtrise pas encore tout, je compte sur vous, les experts Home Assistant, ici présents ce soir pour certainement me filer un coup de main sur 2-3 trucs, mais j'avance à tâtons.
Et tu l'as installé sur quoi ? Sur un Raspberry ?
Sur un Raspberry, sur un Raspberry pour l'instant, ça marche comme ça. À terme, je verrai est-ce que je le mets sur mon NAS ou. À voir.
Ok.
On verra comment ça évolue, mais effectivement, ça a l'air assez cool. J'ai commencé à me faire un petit design spécifique pour mon iPhone. C'est des trucs qui se font hyper simplement, quoi. Contrairement à JDOM, où c'était quand même. Fallait déjà commencer à tripatouiller pas mal de trucs, rien que pour se faire un petit design et un dashboard et compagnie. Et là, en quelques minutes, je me suis fait un truc déjà sympa en intégrant 2-3 trucs que je voulais, quoi, de prioritaire.
Parfait. Autre chose ?
Donc c'est assez cool.
Pour ton actualité ?
Autre chose, pas grand chose. J'ai décidé de virer les Kojoko. Alors, est-ce que ça s'intègre vraiment dans la domotique? Un peu quelque part, c'est un objet connecté qui, on en a déjà parlé, qui donne la conso instantanée de la maison et arrive à analyser un petit peu tout ce qu'on consomme dans la maison et arrive à nous trier tout ça, nous donner un peu de stats et de data pour nous dire ce qu'on a surconsommé ou pas. C'est très bien, sauf que moi je l'avais pris pour tester au début, je m'étais dit je le prends quelques temps pour le tester quelques mois avec l'abonnement, ce que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû l'acheter directement, puisqu'aujourd'hui j'en suis pas loin d'avoir mis dans le prix de l'abonnement la totalité du coût d'achat. Donc j'ai décidé d'arrêter là, ils m'ont fait une offre pour le garder, il faut que je paye un peu plus cher et ils me gardent la caution et compagnie, donc au final c'est pas intéressant. Et j'ai très envie de tester le Enerlink, le petit boîtier à la mode là. Donc Gaëtan a d'ailleurs fait une excellente vidéo là-dessus.
Merci.
Et voilà, et en plus il y a la prime énergie là qui est assez facilement
Ouais, quasiment pour tout le monde, ouais.
qu'on peut assez facilement avoir, voilà. Et au final, pour un billet de 50 balles, on a là ce petit boîtier qui a l'air assez cool.
Ouais. Qui fait un peu le même job. Par contre,
Qui fait le même job, ouais.
je te dévoile un petit peu mes tests depuis ce matin. C'est qu'en fait, j'ai mis l'EcoJoco et le Enerlink l'un à côté de l'autre. J'ai plus de 1000 watts de différence de conso.
Ah,
Alors, si je...
attention,
Ouais, alors...
attention au fait que ce soit pas des watts,
Alors, justement.
des volts ampères.
Exactement. En fait, le Enerlink est branché donc, sur le Linky avec la petite prise. Donc, en fait, ce sont des volts ampères. Et le EcoJoco, moi, il est branché, enfin, il est collé. Donc, il vient d'une sorte de pince ampérimétrique qui n'en est pas une,
Ouais.
qui va se mettre au-dessus du compteur, ben, un peu comme toi aussi, je suppose,
C'est
au-dessus
ça,
du compteur
ouais.
électrique. Bon, donc déjà, les deux relevés de données ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que la différence entre l'un et l'autre, quand je dis il y a 1000 watts d'écart, c'est quand ça consomme beaucoup. Par contre, quand c'est dans le talon, je ne suis pas à 1000 watts d'écart. En fait, c'est une sorte de prorata, de différentiel. Donc, il faut que je fasse un peu plus de tests pour là-dessus. Et je pense que j'ai toujours pas installé, j'ai toujours pas fini d'installer ma prise un peu ampérimétrique, pardon, Shelly, pour avoir en fait un juge de paix concernant les trois systèmes. Lequel dit vrai, je ne saurais jamais rien, mais lequel paraît correspondre à quelque chose de plus cohérent, quoi.
Il y a une règle, et ça dépend du cosinus phi de ta maison pour passer des volts ampères
Du cosinus
au
phi,
watt.
ouais.
Oui,
Parle pas
on ne me
de tes
demande
cours
pas le.
de physique du lycée, non?
Alors, me demande pas plus de détails,
Je vois quand
parce que moi, je ne l'ai pas appliqué. Je sais que j'ai un ami, on en a pas mal parlé, mais le cosinus phi, justement, c'était un truc qui était à mettre pour passer des volts ampères en watts.
D'accord. Ben, c'est
Donc,
moins
tu
0,
regarderas
0,
le
moins,
cosinus phi.
ouais, c'est moins 0,0 47 22 0,0 96 25.
Bon, après, le 1000 watts, enfin, 1000 de différence, c'est pas.
En plein pot. C'est-à-dire qu'en plein pot, moi, mon référentiel, c'est que je suis à 9 kVA de comment ça s'appelle d'abonnement. Et donc, j'ai la voiture, quand elle se charge, elle va compléter la consommation pour atteindre le palier de 9 kVA. Donc, en gros, 9 kVA, si je fais en côte mal taillée, très mal taillée, j'arrive à 9 kWh. Dans l'idée. OK, dans l'idée. Et en fait, l'un me dit 6, l'autre me dit 9. Enfin, 6, 6 et demi, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à mettre l'un à côté de l'autre parce que quand j'ai testé le Enerlink, le but c'était pas de tester par rapport à EcoJoco, c'était pas le but du tout. Je voulais pas, c'était toujours le produit en quoi. Enfin, bref, vous verrez la vidéo. Et là, je me suis dit, tiens, je vais regarder les deux parce qu'en EcoJoco, je voudrais quand même en parler un petit peu. Et quand j'ai mis les deux à côté, je me suis dit, tiens, il y a un sujet, il faut que je creuse un peu. Bon voilà, bon. Après, dans les deux cas, l'idée c'est de se dire, l'un comme l'autre, que tu consommes 7, 8 ou 9 kWh à la limite, tu t'en fous. Parce que enfin, c'est en gros, est-ce que je consomme plus, est-ce que je consomme moins, où est-ce que sont mes pics de consommation, et où est-ce que j'économise, et comment je peux faire pour améliorer ma conso. Après, le référentiel, enfin, ça reste qu'un référentiel dans une unité de valeur que personne ne maîtrise. Enfin, ça ne te parle pas, 9 kW ou 7 kW, c'est pas, y a rien de concret en face.
Un non-électricien, voilà.
Ouais, mais tu le vois pas, enfin, visuellement, tu ne le vois pas, c'est ça que je veux dire. Ce que tu vois, c'est juste la facture à la fin, mais tu ne le vois pas avant.
Oui.
C'est tout ça, mon propos. Bon.
On est facturé en kilowatts, hein, donc.
Exactement.
Bon, à
OK.
tester, quoi.
Gaëtan, toi, tu as changé quelque
Bon,
chose?
en dehors du Enerlink avec l'histoire de mon test, oui, j'ai dégagé la caméra Netatmo présence, ça s'appelle l'extérieur, c'est la présence? Oui. Oui, c'est la présence,
Ouais,
ouais.
présence, ouais.
Welcome, ouais. Présence. Donc, la caméra, on en a parlé plein de fois en disant que c'était super, etc. Puisque j'avais pas mal de déconnexions, j'avais pas mal de problématiques elle se connecte, elle se connecte plus, la lumière qui s'allume plus. Donc j'ai mis ça sur le compte de. La caméra était arrivée en fin de vie depuis plusieurs années, ça fait 5-6 ans que je l'ai, 7 ans. Et donc j'ai pris, j'ai donc longuement hésité, et en fait j'ai basculé sur la caméra de chez Eve, ou Eevee, EVE, outdoor. Donc c'est le même principe, c'est une caméra avec un. Avec une lampe LED au-dessus qui fait, qui fait projecteur, non pas rétroprojecteur, mais projecteur, donc qui éclaire en même temps et qui va filmer votre environnement. Et l'avantage de cette caméra, ou l'inconvénient selon l'utilisateur, c'est qu'elle est compatible uniquement HomeKit. Donc si vous n'avez pas d'appareil Apple, eh ben, la caméra ne vous servira strictement à rien. L'intérêt, c'est que ça se paramètre très fort, très vite. L'intérêt également, c'est que tout le paramétrage se fait via HomeKit, alors, via Eve, mais en fait, c'est HomeKit qui est derrière. Donc, et ça fonctionne plutôt pas mal. La qualité d'image est un peu plus propre, je dirais, que celle de Netatmo. Mais enfin, on est dans la surveillance, donc on n'est pas là pour faire non plus de la vidéo de la 4K pour tourner Avatar. Bref, donc le changement s'est fait assez rapidement, puisque c'est le même système. Et j'en suis plutôt très content. Le seul truc sur HomeKit là, qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai régulièrement des déconnexions. Le système s'est déconnecté, et puis ça y est, c'est reconnecté. C'est déconnecté, c'est reconnecté. Alors, et notamment, quand j'étais en vacances, pardon, je te coupe, je te laisserai prendre la parole après, pardon, excuse-moi. Quand j'étais en vacances, je suis parti en vacances une semaine là, à l'étranger, et j'avais en gros toutes les deux heures, toutes les quatre heures, votre système s'est reconnecté, ok, j'ai accès à mes caméras, et d'un seul coup, ça y est, enfin, ça durait peut-être 3-4 minutes, et ça s'est de nouveau déconnecté. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout recété chez moi, je ne sais pas ce qui se passe avec HomeKit, avec ça marche pas. Je ferme la parenthèse, vas-y.
Non, moi, j'allais dire, j'ai le même souci sur. Moi, avec mes caméras EFI, qui marchent très bien, mais j'ai HomeKit régulièrement. Visiblement, elle ne se déconnecte pas l'application EFI, mais régulièrement, en fait, j'ai caméra déconnectée, caméra reconnectée, elle se reconnecte direct derrière, et j'ai la petite notif dans HomeKit. Et de ce que j'ai lu, il y a pas mal de gars qui ont des problèmes comme ça. A priori, il y a des gens qui ont résolu ça alors ça revient au bout d'un moment, mais de temps en temps ils déconnectent en fait le concentrateur de chez toi, donc qui doit être en majorité Apple TV,
HomePod, Apple TV, iPad.
Alors apparemment les HomePod mini posent beaucoup de soucis avec ça, de ce que je lisais. Ils sont hyper buggés à ce niveau-là, de ce que j'ai lu. Et donc quand t'es sur une Apple TV, il paraît que des fois de temps en temps aussi. Il faut la couper, qu'elle redémarre électriquement. Et apparemment, t'as plus de soucis pendant un petit bout de temps.
Ce que j'ai fait, mais c'était chiant. Donc moi, j'avais la caméra donc Eevee là, qui était signalée comme déconnectée, donc c'est HomeKit pur. Et j'avais également la EFI qui était intérieure, qui me disait également déconnectée. Donc en même temps, donc, en fait, c'était pas la caméra en tant que telle qui posait problème, c'était vraiment le système complet qui se foutait.
Quant à ça, tu vas sur ta caméra, elle fonctionne.
C'est-à-dire, quand c'est déconnecté, je n'avais pas accès. En gros, l'idée, pour tout vous dire, c'était la semaine où il a fait très froid, il y a neigé en France, et je voulais voir la quantité de neige qui était tombée chez moi pendant que j'étais au bord de la piscine en train de siroter un cocktail. C'était juste mon petit délire, et je n'avais pas accès à la caméra. Tant que j'avais pas le truc, ça y est, ça s'est reconnecté. Donc quand ça s'est reconnecté, j'ai accédé à la caméra, j'ai vu la neige, j'ai pris une photo de home screen, et puis voilà, mais ça durait, 5 minutes. Et après, de nouveau, c'est déconnecté. Et ça fait ça toute la semaine.
Moi, quand j'ai des déconnexions, en fait, c'est vraiment HomeKit qui déconnecte. Mais réellement, a priori, en gros, c'est le pont entre HomeKit et le système EFI qui perd la com, je sais pas. J'en ai tellement eu marre, c'est que j'ai viré les notifications dans HomeKit de ce truc-là. J'ai plus les notifs. Donc, ça doit se déconnecter en tâche de fond derrière, je le vois pas, mais même quand je le voyais déconnecté, le temps que je me connecte dessus, que j'aille voir, les caméras étaient déjà reconnectées, en fait. Et ce que je lisais là ces jours-ci, c'est que c'est un problème assez récurrent sur pas mal d'appareils dans HomeKit, de micro-coupures comme ça, et c'est une histoire de concentrateur, visiblement, qui...
Oui, enfin, c'est un sujet là-dessus, clairement. Ouais. Et j'avais accès à rien d'autre, il n'y a pas que les caméras, c'est tout le reste, c'était marqué, ne répond pas. Toutes tes ampoules, tes prises, etc., il n'y avait rien, ne répond pas.
Comment dire dans l'informatique, dans le doute, reboot.
Exactement. Bon, voilà.
Bon, alors, passons à ce dossier du CES 2024. Alors, on a parlé forcément domotique, mais pas que. Hein. Bon, maintenant, parler juste de domotique, c'est un petit peu réducteur. C'est plus maison.
Connectée.
Maison connectée. Mais le sujet phare de ce CES, c'était Matter, clairement. On en a déjà parlé plein de fois. Hein. Avant, c'était Connected Over IP, ça a été renommé en Matter. Donc, pour la petite anecdote, hein, donc c'est tout un conglomérat de plein de marques, Apple, Amazon, Google, Philips, Tuya, bref, tout plein qui se mettent d'accord sur
un protocole.
Des normes. C'est pas protocole,
ah, d'accord.
Attention. Protocole, c'est technique. Justement pour utiliser plusieurs protocoles, dont le Thread, le Zigbee, le Wi-Fi.
Ah, d'accord, pour moi, c'était les Matter et Thread. Pour moi, à chaque fois, je confonds les deux. Pour moi, c'est le même ensemble.
Non.
D'accord.
Non, c'est justement des normes de discussion, on va dire, pour parler de la même langage à travers plusieurs canaux techniques. Voilà. Donc, ça y est, hein, là, c'était... toutes les marques qui étaient quand même sur le marché des appareils domotiques mettaient en gros Matter partout. Donc, ça monte en force. C'est vraiment appréciable. Moi, j'attends ça depuis très longtemps. Alors, depuis un moment, c'était quand même disponible avec certaines marques. On a vu aussi, on en a parlé, de pas mal de YouTubeurs qui ont fait l'essai de brancher plusieurs appareils et qui galéraient à chaque fois. Mais voilà, ça avance. Je vous parlerai aussi de mon expérience juste après de ça. Qu'est-ce qu'on a pu noter donc Akara, en filière de Xiaomi ou ancienne filière de Xiaomi, qui a beaucoup d'appareils qui passent sur Matter. Alors déjà, il faut parler du capteur de présence, pas de mouvement, le FP2, qui est disponible depuis un moment hein, maintenant sur le marché, depuis quasiment un an, je pense. Hein. Il y a eu le FP1 et le FP2. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié de Akara, c'est qu'ils continuent à mettre à jour le FP2 pour rajouter des fonctionnalités.
Mais c'est clairement leur produit phare. Hein. Enfin, je te coupe, mais aujourd'hui, c'est vraiment leur truc sur lequel, technologiquement parlant, je vais y arriver. Est plutôt très très bien abouti, on peut faire plein de trucs et comme tu dis, comme ils font beaucoup de mises à jour, j'ai l'impression que c'est un truc sur lequel ils veulent s'appuyer dans la durée.
Mais c'est bien, tu vois, ils auraient pu sortir un nouveau FP3 pour justement rajouter les fonctionnalités. Non, le FP2 maintenant, et donc j'en ai reçu un en test, j'ai pu le voir, c'est déjà disponible. En plus de faire la présence, il va te faire le... Alors, ça dépend comment tu le configures. Tu peux le faire présence ou tu peux le configurer en détection de chute ou le configurer en surveillance de sommeil.
Tout à fait, j'ai vu,
Tu le mets juste au-dessus de ton lit et ça va détecter tes respirations, etc. et tout.
Tes ronflements.
Alors, ronflement, ah, tiens, on ne l'a pas noté, on va en parler. Le nombre de produits anti-ronflement sur le CE, c'est un truc de fou. Ça tombe bien, je regardais, parce que c'est très compliqué à la maison. Pour moi, enfin, pour ma femme, c'est compliqué.
Vas-y, sors les rames, vas-y.
Donc, voilà, pour le FP2, c'était quand même le petit point. C'est pas Matter, hein, le FP2. Même s'il est Wi-Fi, il n'est pas labellisé Matter pour l'instant. Je pense que c'est pareil, hein, ça sera une fonctionnalité. Je regarde la boîte en même temps, je l'ai sous la main. Mais non, il n'est pas encore labellisé Matter. Ce qu'ils ont présenté, c'est le hub M3, donc remplaçant du M2, hein, qui rajoute énormément de fonctionnalités, bien sûr Matter, qui va rajouter aussi beaucoup plus de puissance pour avoir plus de scénarios, des scénarios en local maintenant. Rajouter des hubs qui vont pouvoir se faire ping-pong au niveau des scénarios et étendre le réseau et tout. Donc voilà, à fond sur Matter. Bon, ça a toujours été un peu les précurseurs aussi, hein, Akara, dans ce genre de choses-là. Donc pas mal. On a Shelly. Alors Shelly, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été beaucoup de micro-modules et de prises connectées. Ils ont aussi des systèmes de micro-modules qui se mettent directement dans les tableau électrique, donc en format RAID-IN. Donc là, ils ont annoncé une nouvelle puce, beaucoup plus puissante, avec plus de mémoire, etc. L'avantage, c'est qu'avec cette puce, on pourra avoir les deux firmwares, le firmware Shelly, mais le firmware aussi Matter. Donc ça, il s'ouvre aussi sur Matter, alors que normalement, c'est quasiment que des produits Wi-Fi, avec une petite connexion Bluetooth hein, pour l'appareillement et la configuration.
Je coupe. Shelly n'a pas racheté une boîte. Ils n'ont pas acheté.
Alors, j'ai vu ça sur ton... Cubino.
Cubino, c'est ça. J'ai découvert ça aussi sur les.
C'est ça. Justement, je le mettais juste après. Je finis juste sur Matter. Mais il faut savoir, c'est que pareil, encore une fois, bonne chose et bon point, c'est qu'ils ont annoncé que Matter sera compatible avec les produits Gen 2. Alors, il y a eu la Gen 1 chez Shelly, il y a la Gen 2 qui est en ce moment, la Gen 3 avec la nouvelle puce, la Gen 2, on pourra mettre le firmware Matter. Mais par contre, il n'y aura que le firmware Matter à cause de la mémoire disponible. Donc, bon. Ils pensent à l'évolutivité des produits qu'ils ont déjà vendus, donc c'est bien, pas pour revendre des nouveaux produits.
Par contre,
et tu as raison.
Enfin, j'ai une question par rapport au Gen 1, Gen 2. Il n'y aura pas de Shelly sans Gen. Voilà, ça c'est fait, on peut enchaîner.
Ok. Voilà. Non, c'était pas ça. C'est.
Voilà. On avait dit qu'on fallait remettre. Ça, hein.
Oui, c'est vrai, les blagues à la Gaëtan.
C'est ça. Bon, donc tu disais, oui, pardon.
Et donc, tu as raison de le préciser, Shelly a racheté une marque qu'on a connue assez concurrente de Fibaro pour les modules Z-Wave. Alors, désolé, je prends une Z-Wave à l'American, ou Z-Wave, pardon. Donc, ils ont ressorti tous les modules Cubino avec le branding et le form factor de chez Shelly. Étonnamment, le Z-Wave n'est pas mort. On a vu encore des produits. Très honnêtement, on était assez étonnés avec Cédric Lequeneux qui m'accompagnait et Hervé de Abavala. Parce qu'on s'était dit, ça y est, Z-Wave, c'est fini. On ne voit plus jamais aucun nouveau produit. Non, il y avait encore quelques présentations. La Z-Wave Alliance était aussi présente dans des suites dans certains hôtels pour présenter. Mais ça reste maintenant assez confidentiel par rapport aux Zigbee et aux Matter qui sont partout. Touya, alors sur le site sur le stand de Touya, pareil, hein, gros déballage de tous les produits. Maintenant que Touya fait, c'est pas très français. Alors que Touya fabrique, parce que le principe de Touya, c'est qu'il développait.
Il n'y a pas de grumeaux.
Oui, tu tweets.
Ouais, c'est bon.
Voilà, allez.
C'est parti. Allez, hop.
Allez, on l'enchaîne celui-là aussi.
C'est le quart d'heure, voilà.
Donc, Touya, le principe, c'est qu'ils fournissaient des puces et ils fournissaient ce qu'on appelle des SDK, des frameworks, à des fabricants pour qu'ils ne se posent pas la question à comment développer la partie connectée d'un objet. Ils filaient tout clé en main.
Ah.
Maintenant, ils produisent, ils fabriquent eux-mêmes leurs objets aussi.
Jusqu'à maintenant,
ça, c'est important.
D'accord, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de produits différents. Touya. Dans le protocole Touya.
Exactement.
D'accord, ok.
C'est pour ça que Touya, ce qu'ils mettent en avant, le Touya Life, de mémoire, si je me souviens bien, c'est vachement répandu, et surtout sur les produits asiatiques,
oui.
Parce que Touya, c'est une marque asiatique, qui fournissait ce genre de choses-là. Moi, mon premier CES, ils avaient un stand de malade, et j'hallucinais sur le nombre de produits qu'ils avaient. Et je ne comprenais pas. Je fais comment ils font pour développer autant de produits. Mais en fait, non. Ils ne développaient pas les produits. Ils développaient la partie connectée qu'ils revendaient.
Ça marche.
Donc, forcément, du Matter aussi, hein, des grosses affiches partout, etc. Goovy, on en a parlé, je crois, en plus dernièrement avec des nouveautés de produits, surtout pour Noël, les guirlandes connectées, les rubans LED, etc. Du Matter, en veux-tu, en voilà, avec tous les nouveaux produits, et c'est bien mis en avant. Et enfin, Nanoleaf. Alors, Nanoleaf, qui a été une des premières marques à sortir du Thread, qui était compatible après Matter, continue à sortir des produits.
Nanoleaf, c'est l'espèce de panneau là, au mur, là, c'est ça
À la base, oui.
Tu as les panneaux. Tu as des ampoules, tu as des guirlandes, plein de choses. J'ai dit Matter en force et un peu de montée en force. On est encore quand même loin, moi je trouve, de
la promesse.
L'état de l'art, de la facilité d'intégration et de potentiel d'intégration. Donc, je trouve que c'était quand même un peu timide parce que tout ce qu'on a pu voir, c'était sur des produits
qu'on connaît, en fait, c'est-à-dire les prises, les ampoules, la lumière, rien de très révolutionnaire. Et ça, il faut aussi justement se ramener à la norme de Matter. Et là, la norme 1.2, parce que c'est surtout la 1.1 qui a été développée sur les produits, la 1.2 qui vient d'être publiée, c'était aux alentours de octobre, c'est là où on va commencer à avoir des nouveaux produits. Alors, nouveaux produits. La liste des produits qui sont dans la 1.2, c'est tout ce qui est réfrigérateur, les clims, les lave-vaisselle, les lave-linges, les aspirateurs robots, détecteurs de fumée, monoxyde de carbone, qualité d'air, purificateur d'air et ventilateur. Normalement, c'est avec ça où on va, justement la norme va dire, bah voilà, un réfrigérateur, ça se présente comme ça, ça a tel type de caractéristiques et tel actionneur, etc. Et ça, bah, il n'y a rien eu de présenté au niveau de ces produits-là, Matter, forcément. On attend encore à ce que les fabricants se lancent dessus. Donc, si on peut espérer encore une révolution sur Matter, bah, ça ne sera pas encore avant au moins un an. En tout cas, sur les produits un peu plus exotiques que juste nos prises et nos lumières.
Oui, c'est ce que si je te suis bien, aujourd'hui, moi, je suis équipé en domotique avec des prises, des lumières, etc. Tout fonctionne. J'ai aucun intérêt à retirer, à changer ces ampoules pour des ampoules Matter ou des prises Matter. Donc, ça fonctionne aujourd'hui, c'est intégré. Il n'y a rien de sous le soleil. En dehors du protocole qui serait un peu plus facile à intégrer, mais tant que ça fonctionne, j'ai pas de...
Non, effectivement, il n'y a aucun intérêt à... Si vous avez déjà, vous êtes déjà équipé, ça n'a aucun intérêt. En plus, si vous êtes déjà équipé, vous avez déjà foutu les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire. Matter, il est là aussi pour faciliter l'intégration. Donc, c'est des QR codes, un peu comme sur Apple HomeKit, mais ça n'existait pas, on va dire, chez les autres écosystèmes, où on scanne des QR codes et ça s'intègre beaucoup plus facilement. Ce qui est possible aussi avec Matter, c'est dire, j'ai une passerelle SmartThings. Alors, SmartThings, c'est la Samsung. Domotique de Samsung, chez Samsung, ouais. Qui est très, très peu présent en Europe. Alors, aux États-Unis, c'est un truc de fou. Hein. Le SmartThings aux États-Unis, au CES, on a vu des trucs de malade mental. C'est impressionnant. Donc, par exemple, tu as une passerelle SmartThings, tu as une passerelle Google Home, par exemple. Bah, eux vont pouvoir parler entre eux, sans forcément devoir réappairer tous tes appareils SmartThings avec Google Home, etc. Ouais. Logiquement, c'est aussi ça la promesse. C'est que tu as plein de passerelles, elles vont parler entre elles. Et donc, s'exposer, se réexposer les appareils entre elles. Donc, si tu as un concentrateur maître, entre guillemets, tu vas vouloir avoir tout concentré, tu pourrais, et tout. Home Assistant, par exemple, pourrait récupérer des produits venant d'autres passerelles.
OK. Tiens.
Voilà. Donc voilà, ça c'était un petit peu le bilan de Matter. C'est positif.
Mais peut faire mieux.
Mais peut mieux faire.
Peut mieux faire, oui.
Ça ressemblerait un petit peu à nos bulletins.
C'est ça. Ouais.
A des capacités, mais se laisse sur ses acquis, se repose sur ses acquis.
C'est ça.
Ça ne fait rire que les deux cancres. On voit que Antoine, c'était sûrement un bon élève.
En fait, j'ai une coupure de son, donc j'ai pas entendu les cinq dernières secondes.
Tu écouteras le podcast pour entendre la blague. Voilà, purement domotique. C'est terminé. Rien de mirobolant. Alors c'est ça aussi, c'est que. On a peut-être un peu tout vu. Il y a rien qui est sorti du lot en nouveauté. En tout cas, pas de grand coup de cœur pour moi cette année au CES.
Ouais, on n'est pas au bout des innovations, mais on est un tournant, je pense, où il n'y a plus de grosses innovations en ce moment.
Non, mais ça déjà depuis un moment.
Sur la domotique, tu avais un peu d'IA quand même. C'est comme c'est tout très à la mode. Tu as vu quelques produits IA domotiques?
Tu fais bien de le dire, effectivement, de l'IA partout. Alors, du chat partout. GPT partout, de l'IA, ça c'était...
Même sur le PQ.
Alors, sur la partie domotique, c'était Matter et de l'IA. Mais sur le reste des produits, toute gamme confondue, c'est de l'IA partout et ça, c'est effectivement de la folie. Bon, forcément, avec ce qu'on appelle le LLM, maintenant, donc tout ce qui est ChatGPT, les langages naturels, fait que ça avance beaucoup. Et ça, on en a vu partout, hein, sur plein d'autres produits. Alors, Akara, j'en ai parlé hein, dans le hub M3. Ils ont intégré justement ce genre d'intelligence artificielle pour dire tous les jours, allume-moi ma lumière quand j'arrive chez moi, blablabla, etc. Logiquement, la promesse, c'est qu'on va pouvoir lui parler et lui dire sa phrase et il va comprendre ça et traduire ça et créer un scénario.
D'accord, ok.
Ça, ce serait bien. Et c'est, moi, c'est ça ce que j'attends. Alors, on en avait parlé hein, éventuellement de faire
un épisode
sur c'est quoi nos attentes justement sur les chats GPT et les LLM dans la domotique. Mais clairement, c'est ça. C'est m'adresser à mon système domotique comme je parle à n'importe qui et pas devoir être bloqué à être sûr de la syntaxe de Google, de Siri, de Alexa. Voilà, comme ça, j'ai déclenché tout le monde. Et parce que voilà, moi, je le sais, ma famille ne sait pas exactement c'est quoi les bons mots-clés à actionner. Donc ça, c'est vraiment l'attente. Je n'ai pas vu tant de choses que ça. Beaucoup plus sur... on intègre de l'intelligence artificielle et puis en fait, on ne sait pas trop ce que ça fait derrière.
OK, market.
Mais bref. Oui. Bien sûr, du marketing à fond, hein, ça, c'était pour tout le monde. J'ai vu quand même certains produits qui sont très, très intéressants, notamment pour les professionnels, des choses qui, c'est sous forme d'une carte de crédit quasiment, avec une batterie qui va enregistrer ta conversation téléphonique ou pendant une réunion, qui va retranscrire tout ce qui s'est dit, qui va faire un résumé, qui va faire un mind map de ta réunion.
Ah bien.
Et ça... Alors, je suis en contact avec la marque justement pour faire un petit test. C'est Plaud qui fait ça avec du chat GPT justement pour ça. Bon, à voir un petit peu sur est-ce que les discussions professionnelles peuvent partir de chat GPT pour faire une réunion. Alors ça, c'est le genre de fonctionnalité qui existe avec Copilot chez Microsoft.
Ouais, j'allais dire, c'est en cours de test chez nous au boulot justement. Puisque le problème de chat GPT, comme tout le monde sait, c'est que tout part dans la nature et voilà. C'est la grosse problématique aujourd'hui. Et visiblement, Copilot fonctionne très très bien. Il y a des choses apparemment.
Avec ChatGPT. Derrière.
Le problème, encore une fois, c'est si ton employeur ou ton client n'active pas ce genre de choses-là, tu ne l'as pas. Alors que ce genre d'appareil-là, avec le consentement, si tu as besoin de le demander, tu peux l'activer n'importe quand, même pour une simple conversation. Donc voilà, c'était le petit produit AI que j'ai bien aimé, moi. Mmh. Revenons quand même sur ce bilan.
C'est du CES.
Et on a pas mal parlé de surveillance. On avait même fait un épisode spécial sur la surveillance de la maison.
Tout à fait.
Des caméras, moi, j'en ai sélectionné une seule. C'est la marque Reolink qui propose une caméra avec deux capteurs et ça permet d'avoir une vision à 180 degrés, donc qui est quand même une plage de vue impressionnante en 4K. Oui, c'est ça, en 4K. J'essaye de me remémorer de mémoire, désolé. Et surtout avec une fonctionnalité qui fait que ça fait un tracking de certains mouvements. Donc, si ça repère une personne, ça va pouvoir créer en une image le mouvement de la personne avec un certain horodatage. Donc, imaginez, vous filmez votre jardin et vous voyez qu'une personne est rentrée dans le jardin, a fait le tour du jardin. En fait, sur une image, vous allez voir tout son parcours puisque vous allez voir plusieurs personnes, la même personne incrustée plusieurs fois sur l'image avec telle heure il était là, telle heure il était là, etc. Donc, pas mal sur de la surveillance, à voir un petit peu sur ce que ça va donner en vrai. Encore une fois, c'était la démo du CES. Hein, donc,
Il y avait du monde dans le jardin.
il y avait effectivement du monde dans le jardin. Alors ça, j'en reparlerai un peu plus tard, puisque je l'ai reçu. Je l'ai reçu il y a 2 jours, donc on va tester ça, voir un petit peu si effectivement ça tient ses promesses là-dessus. Maison connectée. Toujours, et là, on va parler d'un produit pour les passionnés. C'est pas nouveau, c'est tout ce qui est mangeoire et nichoir connectés avec caméra. Alors, ça fait rire, je vois Gaëtan, puisque
ça fait rire les oiseaux.
C'est pas un produit phénoménal. Moi, pourquoi c'était là ? Pourquoi c'est là ? Parce que moi, j'étais étonné du nombre
d'oiseaux,
de l'offre qu'il y a sur le marché. Autant, j'avais déjà vu un produit il y a très longtemps, mais c'était un produit. Là, il y en avait plein. Mais vraiment, pas mal. Touya en avait sur son stand. Donc, Birdfi, moi, je me suis arrêté sur le site parce que j'ai trouvé que leurs produits n'étaient pas que des mangeoires en plastoc. Il y avait aussi la version en bambou, d'ailleurs, que vous pourrez voir sur mon réseau social Instagram et Facebook. Voilà. Donc, bon, ça, c'est encore une fois pour les passionnés de la nature. Ça fait des photos, des vidéos, des animaux qui viennent se nourrir ou qui viennent nicher dans le nichoir. Et avec de l'intelligence artificielle, parce que forcément, fallait y en mettre, ça refait la reconnaissance du type de volatile qui vient se nourrir. Donc, si c'est une perdrix, une galinette cendrée ou un faucon.
Et
voilà.
Question, alors j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça reconnaît le même oiseau? C'est-à-dire que tu as deux galinettes cendrées qui viennent tous les jours. Tu as Marcel et Raymond. Pas. Est-ce qu'il reconnaît Marcel et papa Raymond? Ben non, mais tu ne sais pas.
Je ne sais pas, peut-être. Non, je ne pense pas jusqu'à ce niveau-là. Mais bon. Donc, bon, c'était mignon. Ouais,
moi, j'avais vu ça, mais ça fait un bout de temps, effectivement, que ça existe, comme tu disais. Moi, j'avais vu ça plutôt en mode une start-up qui avait lancé ça. Et en même temps, la start-up là, récupérait les datas pour faire tout un recensement de la population des oiseaux dans telle ou telle région.
Et ils envoient aux chasseurs.
Je sais qu'ils se servaient... Comment ?
Et ils envoient les datas aux chasseurs.
Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc que j'avais vu moi plutôt dans ce sens-là. Et c'est vrai que j'étais surpris que tu nous as montré qu'il y avait effectivement énormément de produits de ce type-là cette année au CES.
Ouais.
C'est vrai que tu as raison, peut-être que l'idée derrière, alors après c'est peut-être pas, c'est trop tôt, mais de dire demain tu installes des nichoirs connectés un petit peu partout dans le monde et tu te fais une cartographie des types d'oiseaux que tu peux retrouver effectivement par région et
c'est exactement ce qu'ils avaient
fait,
un peu
l'évolution. Ouais.
Et ils revendent peut-être la donnée là-dessus, justement. Ouais. Ça me fait penser à... On parle des oiseaux. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Les Frères Poulains,
ouais.
Qui font pas mal de DIY. Ouais. Hein. Ils avaient présenté justement un projet open source n'utilisait pas les images, mais le son et le chant des oiseaux pour reconnaître les oiseaux. On installe ça, je ne me souviens plus du nom, on installe ça sur un Raspberry avec un micro et ça permettait de recenser quels sont les oiseaux, le type d'oiseaux autour de nous. Et ça devient une base de données, effectivement, de recensement. Mmh. Voilà, et puis le
batterie.
Dernier...
Batterie.
Pardon ?
Batterie ?
Batterie.
Batterie ?
La dernière catégorie, puisqu'on en a parlé lors du dernier épisode, sur le solaire, c'est tout ce qui est batterie et solaire. Alors, oui, c'était présent. On a retrouvé les gros du marché hein, et un petit peu de petits. Zendure, Blue Yeti, EcoFlow et Anker étaient là avec leur beau stand et leur nouveaux produits. Voilà, nouveaux produits, rien de révolutionnaire, pas mal d'évolutions. Alors, il y a EcoFlow avec sa nouvelle Delta Ultra, c'est encore plus gros, plus mouse, c'est le nouveau Smart Home Panel, plus gros, plus mouse. Anker, c'était des nouvelles batteries des plus grosses. Blue Yeti, pour le coup, une petite nouveauté sur un système un petit peu modulable, puisque une batterie contenait deux packs batteries, et ces packs batteries permettaient d'alimenter d'autres produits, notamment une glacière. Donc, c'est-à-dire que la glacière n'a pas de batterie, c'est un des modules de la batterie qui est amovible pour justement alimenter. Donc, ça, on va dire, ça permet une certaine modularité et aussi peut-être sûrement un coût inférieur puisque c'est la batterie qui coûte le plus cher. Donc, voilà. Bon, après, est-ce que c'est révolutionnaire? Pas du tout. Chez Zendure, c'était aussi sur des nouveaux. Alors, ça, par contre, c'était pas révolutionnaire, mais c'est intéressant. C'est les micro-modules beaucoup plus importants où on pouvait brancher beaucoup plus watts en entrée. Parce que de mémoire, l'EcoFlow, c'est 800 watts.
C'est ça, ouais.
Ça fait pas beaucoup. Donc là, on a monté à 1200. Ça veut dire que potentiellement, il y a encore de la marge de manœuvre pour augmenter. Donc ça, pas mal, ça évitera d'avoir une multitude de micro-modules, etc. Et ils ont présenté aussi un, un,
un concept, c'est Zendure, en fait, ils ont des batteries qui sont empilables. Donc, eux, oui. on ne recharge pas et on n'a pas de prise pour brancher autre chose, etc. C'est purement de la batterie pour la maison, merci du stockage. Et en fait, ils ont présenté un module qui viendrait au-dessus de ces batteries empilables pour justement transformer ça en batterie nomade avec des prises qu'on peut recharger sur une prise secteur ou alimenter d'autres produits. Donc voilà, c'est du modulable. Pourquoi pas, encore une fois, rien de révolutionnaire. Alors, j'étais aussi étonné, c'est que par rapport à l'IFA, on en avait parlé, l'IFA, c'était des batteries partout. J'avais fait une vidéo un petit peu rigolote, justement, avec batterie. Mais là, c'était moins. J'ai trouvé ça assez étonnant. On s'est posé la question avec Cédric et Hervé, pourquoi ? Est-ce qu'il y a moins de marché ? Je pense pas, parce qu'ils sont quand même bien implantés et tout. Jacques Herry, qui est une grosse marque là-bas de produits de nomades, avait un stand de folie avec une tente de toit solaire, avec un robot solaire et tout. Donc, il y a un vrai marché, mais moins qu'à l'IFA. Voilà. Est-ce que l'électricité coûte moins cher peut-être là-bas aussi ? Ou peut-être qu'ils en ont rien à fiche de
ou alors, quand ils ont vu arriver aussi. Avec ta vidéo de l'IFA, ils ont dit l'orve là, ils ont tout démonté, ils sont repartis en courant.
Non, oh mon Dieu.
Non, non, et puis ils ont tellement de... Ils mettent tellement de paquets sur plutôt la pub via les influenceurs et compagnie, ils n'ont peut-être pas besoin de s'afficher dans des gros salons comme ça. Je sais pas. On en voit tellement.
Sur les grosses, c'est les grosses marques qui fournissent les gros influenceurs. Donc, ouais. Moi, ce que j'avais vu à l'IFA, c'est tous les petits fabricants.
Oui, t'avais d'autres,
Bon. Ah, c'est peut-être ça aussi. L'IFA, c'était peut-être moins cher pour les petits fabricants de venir.
Alors que le CES,
à mon avis, le ticket d'entrée...
Parce que le marché doit être très, très concurrentiel. Enfin, quand je dis les marges, j'en sais rien, mais quand tu vois le nombre d'acteurs aujourd'hui sur les batteries, connus et, moins connus, c'est énorme avec les panneaux solaires. Mmh. Donc, le marché est juste au début, donc c'est un peu la jungle. Et donc, les petits, effectivement, c'est moins évident d'émerger en termes de communication ou de visibilité. Quand tu vois, enfin, Anker, c'est un truc qui est connu depuis longtemps. Ecoflow, bon, on a déjà parlé. Blue Yeti aussi. Zendure, ils sont un peu du lot, mais et ça va être compliqué pour d'autres de vivre et de survivre dans ce monde-là, sauf à trouver la formule magique et le produit qui va révolutionner le truc, un peu ce qu'a fait Ecoflow.
Y a d'autres marques même très connues. Alors, je ne citerai pas parce que je n'ai pas le droit, mais Alifa, il y a une marque qui ne faisait pas du tout de batterie, mais plutôt des produits loisirs et vidéo, qui nous avait présenté leur batterie qui devait sortir en décembre. Finalement, elle n'est pas sortie.
D'accord.
Donc, je l'ai vu, le produit, et ils ne l'ont pas sorti en décembre. Peut-être que ça a été repoussé, revu, etc. Et pourtant, donc, des très grosses marques d'origine chinoise avec un beau logo noir et blanc, voilà, pour ne pas citer la marque. On était assez étonnés, quoi.
Ouais, donc d'autres arrivent sur le marché. C'est
oui,
que le début.
Il y a encore du monde qui va arriver sur le marché.
Le marché est énorme. Enfin, le marché, il est colossal. Cette histoire de batterie à la maison avec les panneaux solaires, etc., c'est que le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle mode. Enfin, c'est même pas une mode, mais je pense que.
Mode de consommation notre énergie.
Tout à fait, ouais.
Tout à fait.
OK. Et pour se terminer sur CES, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'ont marqué, toi, en dehors de tout ce que. De descriptif, s'il y avait un souvenir. Enfin, une chose à retenir par rapport aux années précédentes, comme tu en as fait plusieurs. C'est quelque chose qui t'a marqué, dans le positif ou le négatif, par rapport à ce que tu as vu cette année ?
Alors, le CES a bien changé. Moi, la dernière fois que j'y étais, c'était en 2020, juste avant le Covid. 2021, il y en a eu un virtuel uniquement.
Ouais.
Après, ça a été mixte. 2023, je ne savais pas si ça reprenait normal. Là, ils ont repris. Ils avaient besoin aussi de monde quand même, et je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas osé s'y présenter. Et ils ont ouvert un nouveau hall qui était gigantesque, beaucoup de voitures aussi, ça c'est nouveau, et ils ont perdu énormément, c'est tout ce qui est fournisseurs et petits fabricants chinois. Avant, ils avaient un superbe hall avec vraiment à mon avis, plutôt pour les professionnels, aller se fournir en produits, etc.
mais avec voilà, les petits constructeurs étrangers, alors je veux dire chinois parce que c'était majoritairement ça, hein, mais avec des petits produits, et là où tu peux retrouver une petite pépite en disant « Ah tiens, ils ont une bonne idée et tout », bah, tout ce hall-là, en fait, a disparu au profit d'un gigantesque hall très axé voiture. Donc ça, j'étais vachement étonné. C'est dommage tout. Heureusement qu'ils n'ont pas gardé quand même ce hall-là en plus, parce que déjà sur 5 jours, attends, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, non, 4 jours de salon, plus les jours d'avant de presse, c'est très, très compliqué de tout faire. C'est presque mission impossible hein, de le faire en détail, sans compter la partie start-up.
Plus, ouais.
Au sous-sol, il y a toute la partie start-up des différentes délégations de chaque pays, les French Tech, la Belgique, l'Allemagne, etc. Tout le monde, la Corée, les Corées étaient en force phénoménale. Donc, ouais, c'est très, très gros. Hein, pour information, c'est 17 km de marche à pied chaque jour. C'est du 9h à 18h quasi non-stop. C'est très, très, très éprouvant pour si on veut vraiment profiter un maximum et tout voir. Mais voilà, ça, c'est pas nouveau. Ça, chaque CES, c'était un peu ça. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et j'ai pu faire ainsi un truc, alors rien à voir avec le CES, le Tesla Loop.
Oui,
le tunnel de Tesla.
Vous l'avez fait tous les trois dans la même voiture parce qu'on a vu les mêmes vidéos défiler. Pas dans la même place dans la voiture, ouais.
Alors par contre, ouais, moi j'étais surpris.
C'est vachement intéressant.
Je pensais que ça roulait à fond dans ce truc-là.
Non.
Et
30 miles.
Vous voyez dans ta vidéo.
30 miles à l'heure, c'est piloté par quelqu'un, c'est pas en autopilote. Et c'est marrant parce que c'est des petits bouts de tunnel où même si tu veux aller à un endroit plus éloigné, en fait, tu ressors et tu re-rentres dans...
Ah, tu dois ressortir et re-rentrer.
Ouais, ouais, en fait, nous, on devait aller au Convention Center. On est ressorti à un moment donné pour re-rentrer, etc. Donc, mais par contre, c'était $5 pour la journée, quoi.
Non, donc, ouais,
tu pouvais le reprendre à l'infini.
C'est beaucoup utilisé ou pas cher, ça, il y a beaucoup de.
Nous, on s'est jeté dessus pour être tranquille parce qu'on s'est dit à partir du. On l'a fait le samedi ou le dimanche, je ne sais plus. Parce qu'on s'est dit après, si avec tout le monde au CES, et effectivement, on a vu de la queue, il y avait beaucoup
d'accord,
de monde
ouais.
Pour le CES, forcément. C'est le truc des geeks. Et en parlant de trucs de geek, j'ai eu l'occasion de faire la sphère.
Oui, c'est ce que je veux dire.
T'es allé dedans ou pas, je sais plus.
Ouais, oui, on a fait le spectacle à l'intérieur, spectacle, enfin vidéo. Non, c'était YouTube ou une vidéo
la grande vadrouille.
Un peu immersive en 16K. Et ouais, on a l'impression d'être dedans dans la vidéo tellement c'est détaillé et tout. Et puis l'écran qui est tellement gigantesque et qui nous entoure. Par contre, c'est hors de prix. C'est, suivant les places, c'est entre $80 hors taxe et $200. Mmh. Et on a pris une place à $120 de mémoire. Mais pour une demi-heure, de vidéo...
Ah oui.
Il faut le rentabiliser, l'écran, quoi.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Il y a l'écran intérieur et il y a LED à l'extérieur.
Tout à fait.
Mais bon... ça reste un truc à faire si on
n'est
pas en famille de 5.
Et ils ont quoi comme batterie pour alimenter ? T'as pas demandé ?
Eux, c'est plus en kilowattheure, c'est en mégawattheure. Donc voilà, c'est encore une fois pas une mauvaise édition pour nous en tant que domotique, puisqu'on sent le futur encore une fois arriver. Dans la pratique, mais une petite reprise un petit peu timide encore pour l'instant.
Ok.
Voilà.
Parfait.
Bon, l'année prochaine, tout fonctionnera intégré avec l'Apple Vision Pro, dont on n'a pas parlé ce soir.
On n'a pas parlé de l'Apple Vision Pro qui est sorti.
Non, parce que c'est pas de la domotique.
C'en
est pas pour l'instant. Ça
pour
n'en
l'instant,
est pas.
Ça arrivera. On verra les usages,
enfin.
Mais.
On fera un épisode à ce moment-là, on testera. Mais pour l'instant,
quand Apple nous les a renvoyés à tester, on vous fera un épisode.
Alors, je reviens quand même sur, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, une marque X-Wheel j'ai pu tester les lunettes qui, à la base, étaient juste des écrans qu'on mettait ou qu'on branchait en USB-C. Ils vont sortir en mai des lunettes avec des caméras qui permettent de faire de l'ordinateur spatial comme l'a marketé Apple, ou effectivement, bah, moi, j'ai pu piloter du bout des doigts ce que je voyais à l'écran, voire même, je l'explique dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y avait une lampe physiquement dans la pièce pour la démo, et je changeais la couleur avec le mouvement du bras en chopant ce que je voyais à l'écran, une sorte de petit taquet sur un gradient de couleur, et je changeais quelque chose en physique. Donc, une sorte d'interface pour agir aussi sur le réel. Voilà, c'est possible, ça peut arriver.
C'est les Ultra, X-Real 2 Ultra ?
Effectivement, c'est les Ultra, les X-Real 2
Ultra.
Ultra qui sortent aux alentours de mai, de mémoire, pour 700€. En sachant que les Pro, les deux normales et les deux Pro sont déjà disponibles. Oui. Et qui, voilà, permettent déjà quand même de brancher un téléphone, un iPad, un ordinateur pour avoir un écran beaucoup plus grand.
Les X-Real R, version R, sont à 349€. Bon, faut que je suis dessus, là. Faut craquer, pas craquer.
Ah,
acheter.
Bah, tu m'as bien vendu le truc, moi, avant qu'on enregistre, là. Ça me chauffe
Moi, je les ai achetés. Pour le coup, j'ai tellement adoré que je suis rentré et je les ai commandés
moi, je me vois,
ici en France.
Je me vois bien longé dans mon van pendant que tout le monde dort, regarder mes petites vidéos tranquillement.
Bah, en fait, ce que j'ai adoré, c'est que contrairement à des casques de réalité virtuelle ou déjà quand même assez pixelisés, là, c'est le poids quasiment d'une lunette, donc 75 grammes. Donc, ça se sent pas. C'est pas disgracieux. Alors et l'écran, enfin, la qualité d'image en 1080p est vraiment très bonne.
Et quand tu conduis, tu conduis avec, tu te fais pas gauler.
Effectivement, contrairement à un Apple Vision Pro en train de conduire là où tu te fais gauler, là, tu aurais presque l'impression que c'est des lunettes de soleil, tu peux regarder ta vidéo. Ne faites pas ça, s'il vous plaît.
Non, bien sûr. C'était une blague encore.
Après, avec la Pro, tu peux choisir le degré de polarisant de ton verre, donc ce qui fait que tu vois au transparent quand même.
Ça viendra, ça, les interdictions de porter des lunettes au volant dans les années futures. Comme on a eu l'interdiction du téléphone au volant, c'est peut-être un objet qui sera proscrit dans quelques années.
Avec ce qui va s'intégrer, pas mal.
Ok, parfait. Bon, merci beaucoup.
Bilan. Bah, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre ça dans les commentaires de la page de Tech Café. On sera.
Domotique, oui.
Ouais. Tech Café, le site de Tech Café.
Ah, pardon, oui,
et la rubrique Tech Café Domotique. Et puis, on se fera un plaisir de répondre si vous avez des questions sur ce que vous auriez pu voir sur le CES et à travers les différents reportages et qu'on aurait pu voir et qu'on pourrait. Éventuellement expliquer si on les a vus aussi, encore une fois.
Moi, le problème, c'est que le CES, je l'ai suivi uniquement à travers tes vidéos, donc c'était très biaisé entre ce que j'ai vu et ce que tu nous racontes ce soir.
C'est exactement ça, ouais. Moi, je ne me suis pas énormément intéressé, j'ai pas énormément creusé, j'ai pas trop eu le temps de suivre tout ça. On a suivi effectivement toutes tes vidéos qui nous ont pas mal hypé sur pas mal de produits. Moi, il y a deux, trois trucs où. Moi, ce qui m'a vraiment hypé, c'est les petites. Les petites guirlandes LED là, avec les LED, adressables là. C'était quelle marque d'ailleurs, je ne sais plus. C'est pas Gouvy.
C'est Gouvy, ouais, il me semble. Ouais. Ouais.
C'est les bandes LED Gouvy. Ouais.
J'ai montré ça à mes gamins.
C'était flexible où tu pouvais écrire, faire les formes que tu veux. Ils avaient fait un Aquaman de mémoire.
Et quand je regardais ça, je crois que j'avais mes gamins à côté ou je ne sais plus. Enfin bref. Et évidemment, j'étais hypé et eux les premiers parce qu'ils veulent ce genre de truc justement. Dans leur chambre, donc je suis en train de regarder tout ça. Ouais, voilà.
Parfait.
Bon, ok, écoutez, il nous reste plus qu'à conclure cet épisode qui sera pas trop long comme ça.
Ouais,
vous aurez
c'est presque
du temps un petit peu pour vous.
Surtout que c'est presque de l'impro, on n'avait pas forcément prévu d'enregistrer ce soir. Et puis,
on se devait quand même de faire un
c'est
petit
pas
bilan du CES.
Tu n'avais pas compris qu'on avait enregistré ce soir. C'est pas la même chose, Antoine.
Je l'ai pas expliqué dans ce sens-là. Ouais.
C'est marrant, hein, Gaëtan et moi, on avait bien compris.
Ouais.
Comme c'est toi qui faisais le montage de l'audio pour la publication deux jours.
Ainsi que la vignette.
Ça va être trop compliqué. Ah, puis maintenant, les vignettes, on a plus trop de soucis avec ChatGPT, c'est assez simple.
Ok, ça marche.
Bon, bah écoutez, on se retrouve bientôt. Comme d'habitude, hein, sur nos réseaux sociaux, Antoine The Walking Dada sur Instagram, ouais. Gaëtan sur Côté Geek Instagram, et aussi beaucoup de vidéos YouTube, hein, notamment sur ton test de l'AirTag dernièrement.
J'en ai fait deux en 15 jours, je suis épuisé.
Oh, fais attention aux claques.
Ah, c'est ça, ouais.
Ben moi sur le blog, et puis des articles sont déjà en préparation, comme je vous ai dit, hein, certains produits sont arrivés en test. Sur l'Instagram, où vous verrez aussi les produits à arriver. Voilà. Sur le flipboard est à jour.
Ça existe encore, ça?
Ouais, il existe toujours. Alors, oui, j'ai été voir.
Joker.
Non, mais c'est vrai que il n'y a plus de grandes nouveautés, non. Donc c'est vrai que... On n'alimente plus forcément, mais c'est vrai que dans l'idée, c'était pas mal.
Quand je vois passer des news de domotique, moi, je les partage. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je ne vois plus passer.
Ouais, moi, j'ai perdu l'habitude de les partager. Ouais, j'ai essayé de penser à m'y remettre.
Bon, voilà.
Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute à tous. Merci Gaëtan, merci Antoine.
Merci, hein, merci à toi pour ce partage. Bah oui.
Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.
Salut, bye.
Salut.
À bientôt.
Ciao.
Salut.